Diffusion directe, la Coupe du Monde de Football Brésil 2014 à la place du cinquantenaire ex-gare centrale et à l'échangeur délimité grâce à la MONUSCO. Chaque soir, suivez tous les matchs sur écran géant. Ensemble, consolidons la paix en RDC au rythme de la fête du football du 12 juin au 13 juillet 2014.
Bon nombre de parents battent violemment leurs enfants ou leur infligent des toutes formes de punitions. Ils les battent sans ménagement, à coups de fouet, et les font subir parfois des graves châtiments corporels. Alors quelles sont les punitions, les types de punitions à infliger aux enfants? On a suivi tout à l'heure, Paul, vous l'avez suivi peut-être, bravo Belete de Guimena, qui vous dit que là-bas, d'après un rapport établi, beaucoup de parents et d'enseignants torturent les enfants, ne punissent pas, mais torturent les enfants. Alors je me pose la question de savoir la différence entre la punition et la torture.
Merci Jeudi, salut à tous les amis qui sont à l'est comme à l'ouest et au centre de notre pays. Je dirais qu'il y a effectivement une démarcation entre la punition et la torture. C'est vrai que toutes les sciences humaines s'intéressent à cette question de la punition. Mmh. Et même les théologiens de toutes les croyances sont convaincus que la punition est naturelle et même inspirée par la création. Mmh. De sorte qu'il y a plusieurs théories qui montrent qu'effectivement les ancêtres punissent, le créateur punisse ou l'église doit punir ou encore les groupes doivent punir. Mais punir veut dire quoi? Punir veut dire corriger pour rendre meilleur. Nous devons l'entendre sous cet angle-là. Mmh. C'est vrai que beaucoup de définitions peuvent être données, mais si on parle de torture, on va plutôt dans le sens d'une correction, en fait d'une peine infligée à quelqu'un pour lui faire souffrir.
Non pas pour le rendre meilleur.
Non pour le rendre meilleur. La torture peut aller jusqu'à ce que la personne perde un membre ou perde même sa vie.
Voilà, donc... Alors dites-nous, Paul Moula, vous avez dit on punit un enfant pour le rendre meilleur. À l'école, nous savons qu'il y a plusieurs types de punitions. Les enfants, parfois il y a des enseignants qui demandent aux enfants d'aller puiser de l'eau, d'aller couper les herbes ou d'aller couper le bois pour l'enseignant. Alors quel est, d'après vous, quel est le type de punition appropriée?
D'emblée, nous devons dire que la punition ne concerne pas seulement les enfants, je dis.
Oui.
La punition concerne tout le monde. C'est comme ça que je disais que dans toutes les théories, on parle de la punition.
Oui.
Un homme peut corriger sa femme et vice-versa. Une autorité peut punir son agent, mais un agent peut aussi, dans les limites de son pouvoir, punir une institution. Donc, il y a...
C'est à tous les niveaux.
C'est un jeu de pouvoir qui s'exerce à tous les niveaux. Tous ont derrière la tête... Surtout ceux qui sont dans l'éducation, parce que nous parlons des enfants.
Des domaines, oui.
Nous, c'est pour limiter les sujets. Ont derrière la tête l'idée de donner la vie, rendre meilleur l'enfant, le remettre sur la ligne. Parce que le comportement humain est dicté par un certain nombre de critères, indicateurs qui sont déterminés par la communauté, par le groupe, afin que chacun puisse vivre en harmonie avec lui-même et en harmonie avec les autres. Malheureusement, il arrive que l'on puisse dévier. Et quelles sont les punitions? Il faut d'abord se dire pourquoi je vais punir, qui je vais punir, comment je vais le punir, quel résultat j'attends. Le résultat doit être rendre l'autre meilleur. Mais qui suis-je pour le punir? Je suis parent, c'est-à-dire géniteur ou... celui qui est auditeur, mais je dis, est-ce que ce que je vais faire à mon enfant pour le remettre sur la ligne lui profite?
Il y a des parents, par exemple, lorsqu'un enfant est très turbulent ou indiscipliné, bon, on le bat violemment et puis on les roue des coups et ils trouvent que c'est une bonne façon de le corriger.
Il faut maintenant aller à la source. Pourquoi on sort de la ligne tracé par la communauté, par la famille ou par le groupe? On peut quitter la ligne parce qu'on est ignorant. Et dans, dans sa vulnérabilité, nous savons que les enfants sont généralement peu informés de ce qu'ils doivent faire. Ils apprennent. Et il faut se dire que l'enfant peut être encore ignorant, peut ne pas savoir ce qu'il faut faire. Vous pouvez lui avoir dit, mais il oublie. Une deuxième raison de le retrouver hors la ligne. Alors, s'il a oublié et qu'il avoue qu'il avait oublié, faut-il le sévir? Faut-il le frapper? C'est aussi une question. Mais un enfant peut aussi réagir, sortir hors de la ligne, avoir un mauvais comportement, simplement parce que ça lui plaît. Curieux, hein?
Ça lui plaît.
Ça lui plaît.
De ne pas respecter les instructions des parents.
Des parents. Ça lui plaît de voir un peu comment ces adultes, ces gens qui paraissent trop intelligents, vont réagir par rapport à ce qu'il va faire.
Oui.
Un enfant qui mange bien, un enfant qui vit bien, à qui on donne tout, va voler, va prendre quelque chose, chiper quelque chose, simplement pour voir quelle sera la réaction. Est-ce qu'on m'aime dans cette maison ou pas? Un test. Donc, il faudra, si on veut choisir une punition qui serait vraiment éducative, il faudra d'abord savoir quel est le niveau de l'enfant, pourquoi il sort de la ligne et quelle punition lui infliger à ce moment-là pour que ça le corrige. Parce que un enfant qui sait que quand je vais sortir en dehors des heures prévues par la famille, je sais que papa a l'habitude d'hurler, il va hurler, puis après, ça va passer. Il connaît votre punition, il s'est dit, c'est par habitude qu'il hurle, puis après, il n'y a rien. Je dis, acceptez que cet enfant va commencer à sortir et va, par habitude, vous...
Papa va hurler et ça ne fera rien.
Ça ne fera rien.
Oui.
Si l'enfant sait que vous allez donner
une bonne fessée.
Une fessée ou une flagelle, l'enfant sait aussi que... Bon, ce que ça fait, la fois passée, on m'a tapé, je suis pas mort. Donc, je peux faire ce que je veux.
Alors, quelle est alors la meilleure punition pour le corriger?
La meilleure punition n'existe pas. La meilleure punition est dictée par la cause, la source du déraillement et par le comportement et le caractère de l'enfant. Il y a des enfants qu'on peut considérer plus ou moins difficiles parce qu'il est né dans des conditions plus ou moins difficiles, qui ont eu une maternité difficile, un accouchement difficile. Ce sont des enfants parfois qui naissent avec des tares et qui les prédisposent à un peu de tétitesse. Un tel enfant, il l'a. Vous devez savoir l'élever.
On peut dire d'emblée que les châtiments corporels sont à éviter.
C'est déjà interdit. C'est interdit. Oui. Et la convention internationale, les conventions internationales insistent là-dessus, particulièrement la convention relative au droit
de l'enfant. Le fouet, même à l'école, un enfant turbulent, on ne peut pas le fouetter.
Et les règlements d'ordre intérieur de toutes les écoles du monde aujourd'hui interdisent les châtiments corporels. Prendre un enfant, l'exposer au soleil,
à genoux,
oui. Ou encore imaginer tout ce que vous pouvez faire pour le torturer physiquement comme moralement est interdit. Donc, il faudra trouver des mécanismes qui entraînent l'enfant à apprendre. Par exemple, si je donne à un enfant... comme on l'a fait, qu'on a vu chez certains enseignants,
écrire 100 fois,
recopier un texte, c'est l'initier finalement à bien faire et à améliorer son écriture et parfois son attention.
Écrire par exemple 100 fois, je ne parlerai plus en classe.
Je ne parlerai plus en classe, c'est sa main qui s'exerce et il note, il fait attention. Chaque fois qu'il y a des fautes, vous dites répétez parce que ici vous vous êtes trompé. Vous êtes en train, en d'autres termes, de l'enseigner au lieu de le punir. Donc il y a plusieurs punitions que l'on peut imaginer qui sont éducatives. Nous avons vu à l'époque des enseignants qui ont demandé aux enfants à l'intérieur d'aller à la pêche, de ramener un poisson ou deux.
D'aller pêcher pour l'enseignant.
de ramener un poisson pour l'enseignant ou pour le groupe. Pourquoi? Parce que pêcher, ce n'est pas facile.
Oui.
Pêcher, ce n'est pas facile. Attraper soi-même un poisson, ce n'est pas facile. Mais quand on est puni, quand on le punit dans ce sens, oui, il rentre avec un travail fait de ses mains.
Mais s'il va se noyer...
s'il va se noyer, c'est celui qui l'a envoyé qui sera responsable parce qu'il a mal choisi sa punition. Oui. On a vu des gens demander aux enfants de ramener des fagots de bois, tout ça.
Oui.
Mais si l'enfant est...
Pour le maître, pour la femme du maître.
Pour la femme du maître ou pour le groupe. Il y a des enfants qui étaient à l'internat.
Oui.
Mais si... l'enfant est mordu par un serpent, qui paye le prix, c'est celui qui l'a envoyé là-bas. Donc, il faudra se dire, je suis responsable.
Mais si on l'envoie, par exemple, couper les herbes à l'extérieur devant l'école, je crois que c'est...
Il y a aussi des serpents là-bas, parfois. Donc, il faut s'assurer que l'enfant reste en sécurité. Et lorsqu'on inflige une punition,
oui,
il y a des mots qui restent. Qui restent des mots clés qui conduisent, finalement, celui qui décide de la punition. Mmh. Les mots comme vérité. Est-ce que je suis vrai? Est-ce que je sais que moi je reproche à l'enfant? Est-ce que c'est vraiment vrai? Il l'a fait, ce forfait que je lui reproche, ce mal, ce déraillement qu'il a commis, est-ce que c'est effectivement vrai? Il l'a fait. Pour cela, le dialogue avec certains enfants est nécessaire. Il faut écouter l'enfant.
On va écouter un auditeur. Etienne Andrito, il nous appelle des Harou, en province orientale. Vous voulez également participer? Appelez-nous au 081-890-63-94.
Lorsque le jour se lève, toutes les provinces se retrouvent sur la radio de la paix. Journaux en français, Swahili, Chiluba, Kikongo et Lingala. Synthèse de l'actualité africaine et internationale, revue de la presse quinoise, toutes les infos s'écoutent entre 5 et 9 heures. Le meilleur de l'actualité sportive chaque demi-heure, des reportages qui vous donnent la parole, des infos pratiques et de la musique qui réveille. Lorsque le jour se lève, dès 5 heures, Radio Kapi met le Congo à la une.
Quels sont les types de punitions à infliger aux enfants? Etienne Andrito nous appelle des Harou en province orientale. Etienne, bonjour.
Oui, bonjour. Je suis Daniel Kassam. Nous sommes très contents pour le service que vous nous rendez de jour au jour. Je vous appelle depuis la province orientale à Harou, comme vous l'avez précédemment dit. Le thème que vous avez amorcé, c'est un thème vraiment très important. Qu'est-ce que nous sommes en train de constater? Il est vrai que les parents, les enseignants du primaire comme du secondaire, torturer les enfants, punir les enfants de manière terrible, et c'est ça aussi ce qui n'est pas bon. Mais essayez de voir qu'est-ce qui est à la source de cela. Selon mon analyse personnelle, je découvre que c'est la pauvreté, qui est en train de faire en sorte que les parents puissent à tout moment fouetter les enfants, menacer les enfants. Parce que quand le papa est pauvre, quand il n'a rien, mais il est entouré des enfants à côté de lui, et que les enfants viennent autour de lui en train de jouer, tout ça, pour les papas, ça les fait du mal. Ils trouvent, c'est comme si les enfants sont en train de les gêner. C'est pourquoi, lorsqu'ils les torturent, ils se consolent un peu. Donc, moi, j'ai compris que c'est la pauvreté qui est en train de frapper la population congolaise. Parce que, il y a un adage qui dit, lorsque la pauvreté entre par la porte, l'amour, ça fuit par les fenêtres. Voilà, c'est un peu ça ma proposition.
D'accord. Lorsque la pauvreté entre par la porte, l'amour fuit par la fenêtre. Paul Mboula, je reviens tout à l'heure, il y a un autre auditeur, Van. Voilà,
Van Olivier.
Van Olivier, vous êtes à Bounia, bonjour.
Oui, c'est Van Olivier, je suis à Bounia. Je voulais poser une question à l'évité.
Oui?
Oui, je voulais demander un enseignant qui prive un élève de la récréation, quel conseil l'évité peut lui donner?
Voilà, donc pendant la récré, l'élève reste enfermé dans la salle de classe.
Oui, oui.
Voilà, parce qu'il a dérangé. Paul Mboula, merci Van de Bounia. Paul Mboula.
Merci beaucoup Étienne pour votre intervention. Si nous sommes en train d'insister sur cette question des punitions qui doivent être éducatives, effectivement pour éviter les conséquences de ces punitions qui sont injustes, des punitions qui ne relèvent pas de l'amour. Pourquoi je le dis? Parce que la violence a gagné le terrain et vous le savez, le monde est devenu essentiellement violent aujourd'hui. Parce que les punitions ne sont plus justes. Les punitions ne sont plus basées sur la vérité. Les punitions ne tiennent plus compte de l'équité. Et les punitions ne sont pas données en faveur de l'intérêt de l'enfant. Ce sont des critères, et j'ajouterai celui que vous avez ajouté là, la question de l'amour. Ce n'est pas seulement la pauvreté, mais nous sommes entrés dans une chaîne de violence parce que les parents qui ont été punis injustement se vengent aujourd'hui sur leurs enfants ou bien s'inspirent du modèle de leur éducation pour dire qu'un enfant, il faut le frapper et même quand on n'a pas d'argent, au fond. Un parent qui n'a pas d'argent, un parent qui n'a pas de moyens pour élever ses enfants, mais qui a pitié de ses enfants, va réaliser que ses enfants n'ont pas beaucoup de résistance physique et il ne va pas risquer de leur infliger des punitions qui frisent la violence, la torture. Mmh. Hein? Donc, si on part sur cette base-là, un enseignant qui sait que les enfants qui sont en face de moi proviennent des familles pauvres, mangent mal, vivent dans des conditions difficiles, ne va pas prendre des risques d'infliger des punitions corporelles à ces enfants qui sont déjà fragiles.
D'accord. Un instant, on va accueillir Jirai Sébastien Ladebounia. Bonjour.
Oui, bonjour. Moi, je voulais poser la question à l'intervenant.
Oui.
Je voulais savoir, donner le fouet à un enfant, c'est mauvais. Parce que là aussi, c'est une façon d'éduquer l'enfant.
Voilà, fouetter un enfant, est-ce que c'est mauvais? Paul Moula.
D'emblée, j'ai dit que c'est mauvais. Pourquoi? Parce que après tout, cet enfant va aussi frapper ses amis. C'est la première chose. Et ça, c'est ce que je venais de dire au sujet de la violence. La violence s'appelle la violence, bien sûr. Donc, c'est comme ça que nous devons faire un effort.
Oui.
Pour rompre cette chaîne de violence qui a gagné le monde aujourd'hui. Et fouetter pourquoi? Est-ce que cet enfant, vous lui avez parlé, vous l'avez conseillé, il n'a pas changé? Est-ce que vous l'avez persuadé des conséquences de l'acte qu'il a posé? Quel que soit son niveau, l'enfant a d'abord besoin de voir votre réaction, votre attitude par rapport à l'acte qu'il a posé. Le bébé qui n'a que 2 semaines, 3 semaines, qui commence à peine à voir, regarde toujours le visage de sa mère pour réaliser si ce qu'il pose comme acte réjouit ou pas sa mère.
Mais je sais que dans mon bon nombre d'écoles, il y a des préfets des disciplines qui ont souvent des fouets et les enfants têtus, ils sont fouettés régulièrement.
Ah oui, mais je pense que si la loi devait s'appliquer, beaucoup d'entre eux ne seraient pas là où ils sont.
Les préfets des disciplines.
Les préfets des disciplines qui ont des fouets ne devaient pas être là parce qu'ils ne sont pas à leur place.
Mais il semble que les enfants sont, ils deviennent très corrects quand ils voient les fouets. Ils sont très corrects.
Ils ne sont pas corrects, ils deviennent hypocrites. Alors, l'hypocrisie n'est pas une valeur à développer chez l'enfant, parce qu'un enfant hypocrite agira, comme on le dira en famille, comme à l'école, agira bien en votre présence, mais il ne devient pas meilleur. Il devient
hypocrite.
Donc, quand vous n'êtes pas là, ce sont les bruits dans la salle de classe, parlant de l'école.
Oui.
Si il n'écoute que par le fouet, donc vous allez réaliser que quand vous êtes absent, les élèves vont déranger. Mais des enfants qui ont été sensibilisés, des enfants qui sont occupés pendant que vous êtes absent et qui sont entraînés à la lecture, qui sont entraînés à la révision de leur travaux, de leurs cours pendant que l'enseignant est absent,
oui,
s'occupent automatiquement.
D'accord.
De la même manière, oui. On va y aller.
Deux autres auditeurs. Angèle Télémy depuis Yarou et Rachel Aïsiro. Angèle, bonjour.
Bonjour, M. Jésus. Bonjour aussi à notre invité.
Bonjour, Angèle.
On vous écoute.
Ok, merci. J'ai une préoccupation à lui poser.
Mm-hmm.
J'ai un petit frère qui a 13 ans. Il est à 6e année primaire. Cet enfant refuse catégoriquement d'aller à l'école.
Oui.
On lui a infligé toutes sortes de punitions, les fouets, on les pouvait même à manger.
Oui.
Dans tout ça, il n'a pas changé. Il quitte la maison pour aller à l'école, il va s'arrêter au cours de la route pour aller jouer avec ses amis dans des ronds-points. Tous sont des adolescents. Et à ce moment, il a fui la maison. On ne connaît même pas là où il passe. Et maintenant, papa et maman ne s'attendent pas à cause de cet enfant. Papa dit que c'est la maman qui a la base de tout ça. Parce que quand on donnait la punition à l'enfant, maman voyait comme si on était en train de maltraiter l'enfant. Papa a pris une décision, il ne parle plus à ce qui concerne cet enfant. L'enfant est maintenant libre, il fait tout ce qu'il veut. Ça nous préoccupe beaucoup. Toutes les conditions minimum sont quand même réunies pour sa scolarisation. Alors, je voulais demander à l'invité, lui qui est un éducateur, qu'est-ce qu'il faut faire pour cet enfant, pour récupérer cet enfant vraiment? Je l'ai suivi avec beaucoup de terreur au début. Il a dit que punir, c'est corriger pour rendre meilleur. Pour de tels enfants, quel type de punition lui est jugé pour le corriger? Faut-il le laisser comme ça ou quoi?
Alors, Rachel, même toi, tu ne sais pas où se trouve ton petit frère maintenant?
Il arrive à la maison pendant la journée, mais le soir, il n'est pas à la maison. Il passe nuit ailleurs.
Il passe nuit ailleurs.
Il vient seulement, il cherche à manger.
Oui.
Quand il mange, il quitte la maison pour aller.
D'accord. Merci, Angèle, depuis Yarou. Rachel, vous êtes à Isiro. Bonjour.
Allô, bonjour.
On vous écoute.
Oui, j'ai une question à poser à l'invité. Je suis un ami, là, garçon, qu'on fréquente même seul avec lui. Alors, les garçons, il est vraiment, vraiment timide. Il ne supporte, donc, il ne supporte pas de taquiner. Et parce qu'à l'école, c'est là, vraiment, c'est l'ambiance qui règne. Les taquineros se taquinent des fois. Et lui, tellement qu'il ne supporte pas ça, des fois, il décide même d'abandonner les études. Il fait quelque chose de 2 mois, 3 mois, il ne vient plus à l'école. Bon, si les parents insistaient, même à l'école, on va insister aux parents de faire tout de, pour l'envoyer encore à l'école, c'est là qu'il va encore venir. Mais si on recommence avec de taquiner, les garçons n'ont pas encore laisser devenir en cours. Alors, j'aimerais un peu savoir si l'invité, quel conseil peut-il donner à ce garçon-là? Est-ce qu'il faut abandonner le cours parce qu'on te taquine des fois à l'école?
D'accord. Merci, Rachel. Madame Rosie de Bounia, bonjour.
Oui, bonjour. Oh. Bonjour, la radio Capi. Moi, je vais demander un conseil à l'invité.
Oui.
J'ai mon enfant, il a 16 à 17 ans.
Mmh.
Il a 2e CO. Maintenant, cet enfant est... Vraiment, je ne sais, je comprends pas si c'est quel problème qui lui arrive. En première année, il avait repris la classe. En deuxième, maintenant aussi, il risque de reprendre la classe. Son papa le demande, c'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu veux quoi au juste? Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? On l'a même tapé aussi, on t'a des fois, mais la femme ne change pas. Il quitte la maison bien pour aller à l'école, mais... À l'école, là-bas, si il se disait comment, si il ne participe pas à l'école, on ne comprend pas. La femme revient toujours avec des résultats là, vraiment incroyables. Alors, je vais demander conseil pour l'invité que, si il peut me prodiguer conseil pour je peux lui prodiguer quel conseil
oui.
Pour cette affaire.
Vous l'avez tapé, mais ça, il change toujours pas.
Oui, le papa l'a tapé vraiment. Vraiment taper alors
que sérieusement.
Mais l'enfant ne change pas toujours.
Voilà, il ne change pas. Merci madame.
Donc,
mais,
son papa veut qu'il puisse étudier, mais c'est comme si il ne veut, même si on le demande, il ne veut pas étudier ou quoi. Il va dire seulement je veux étudier, mais il ne veut pas étudier apparemment parce qu'il rentre avec des résultats à la maigre.
D'accord, Paul Mboula va répondre tout de suite. Hein.
Merci beaucoup tous les amis qui sont intervenus. Nous réalisons avec l'expérience partagée ici que la violence faite à un enfant pour le corriger n'apporte pas les résultats escomptés.
Mm-hmm.
Celui-là va fuir la maison. Il ne revient que quand les bourreaux ne sont pas là, c'est-à-dire papa et maman sont bourreaux, donc je ne peux pas, ils ne me supportent pas, ils ne m'aiment pas, je pars, je viens, ils me nourrissent, ils croient qu'ils m'aiment en me donnant à manger, mais je n'avais pas besoin que de ça. Cet enfant que papa a fouetté plusieurs fois dans
le
cas de Rosie,
qui refuse d'aller à l'école,
qui a de mauvais résultats, se rend compte que il est dans un milieu où il n'est pas compris. C'est trop vite aller en besogne, mais on doit dire qu'il a besoin d'un père qui va vérifier dans quelles conditions il étudie. Nous avons des
femmes. Alors, vous parlez de l'enfant de Madame Rosie. Hein?
De Madame Rosie.
Oui.
Mais j'ai ramassé les deux avec Angèle aussi.
Mm-hmm.
Donc, je voudrais dire que le contact entre la famille
et l'école
est indispensable. Quand nous parlons de punition, nous avons dit quelle est la source, quelle est l'origine de déviations comportementales observées chez l'enfant. Si c'est l'environnement, si c'est les milieux, parce que si dans le cas de l'enfant de Rachel, l'enfant qui est taquiné à tout moment, c'est un enfant qui sent que à l'école, il n'est pas accepté, il est stigmatisé. Oh, la stigmatisation détruit l'élan de formation et fait que la personne veut aller dans un groupe où il sera plus accepté. Vaut mieux rester à la maison ou aller flâner dans la rue d'aller dans une école où on se moquera de vous du début à la fin. Et là, c'est le parent qui doit savoir négocier avec les enseignants.
Alors Paul Mboula, pour le cas du petit frère d'Angèle, des Harou, qui refuse d'aller à l'école, le papa l'a tabassé, maintenant il a fouillé la maison. Alors Angèle veut savoir qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour ramener cet enfant à la maison et qu'il aille à l'école.
D'abord, l'enfant revient à la maison, c'est une bonne chose. La deuxième chose, c'est que nous devons aider le parent à se rendre compte qu'ils ont commis une erreur d'éducation de cet enfant de la famille d'Angèle. Pourquoi ? Parce que c'est leur violence qui a entraîné l'enfant à quitter la maison. Il était persuadé que ses parents ne l'ont pas aimé. Ils l'ont frappé. Peut-être qu'il lui demandait plus que ce qu'il ne pouvait pas donner. Et ou encore, il voulait créer un prototype qu'ils avaient en tête, mais qui ne tenait pas compte de réalités, du caractère même de l'enfant. Donc, il faut connaître le caractère de l'enfant pour l'aider, le reprendre. Nous devons ramener cet enfant à la maison, s'il y a lieu, nous humilier et lui demander pardon. Pour l'avoir amené jusqu'à ce niveau-là, l'écouter et l'aider progressivement à se rattraper.
Oui.
Et ça, je pense que c'est le même conseil qu'on va donner à Rachel dans le petit fouille le cours par taquinerie. Les parents doivent aller à l'école, voir pourquoi est-ce que cela arrive à ce pauvre enfant.
D'accord. Guédon Mwamba nous appelle de Kolwezi et Jean Wanadé de Bounia. Guédon, bonjour.
Bonjour Daniel, bonjour à l'invité,
bonjour
à tous les auditeurs qui nous sont sur moi.
Quelle est votre question?
Ok, merci bien. Je voulais juste poser une question à notre invité, un conseil peut-être. D'après le psychologue, dit que l'enfant qui ne joue pas est malade, ce qui est vrai. Mais on a connu un cas ici, chez nous, c'est-à-dire un papa qui avait interdit à son enfant de ne pas aller, n'est-ce pas, jouer au ballon. Après un moment donné, l'enfant... Il est allé jouer. Quand il est revenu, le papa là a dit de priver l'enfant à manger. Quand on l'a privé à manger, l'enfant bon, était affamé bien sûr. Et elle s'est dû faire quoi de chercher à manger. Et finalement, il est allé voler quelque part. Quand il est revenu, le papa a pris l'enfant, a tabassé tout ça. Et après, à un moment donné, l'enfant est resté, n'est-ce pas, là chez elle. Vraiment un peu frustré là, tout ça, on dirait comme s'il était malade. Alors, ce que je voulais demander à notre invité, quel conseil qu'il peut donner à de tels papas qui font de telles histoires-là, afin qu'ils puissent profiter de l'occasion de ne pas les faire un autre jour.
D'accord.
Alors, ma question est celle de savoir, si l'invité peut nous dire quelle discipline ou quelle punition que nous devons adapter afin que tout le monde qui nous cherche sur moi puisse aussi, n'est-ce pas, s'adapter à le faire. C'est ce qui était comme ma question. Merci.
D'accord, merci. Jean, vous êtes à Bounia, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste.
On vous écoute, Jean.
Moi, bon, apparemment, lorsque nous étions d'abord en 5e élève dans une école en place ici, m'est arrivé en retard. Alors, on a trouvé que déjà l'enseignant est en classe. On nous a infligé une punition vraiment regrettable. On nous demandait de creuser le WC de 10 mètres. C'était regrettable. De 10 mètres.
Ah bon?
On a invité même les parents à l'école. Bon, presque, on était encore au début de l'année. Nos parents, n'ont pas accepté cette punition. Alors nous étions obligés de quitter cette école, d'aller s'adhérer dans une autre école, monsieur le journaliste. Quel conseil que notre invité peut donner à tel type d'enseignant? C'est voilà. Ça ma question.
Voilà, creuser les fosses sceptiques de 10 mètres voilà, pour le compte de l'école. Ça, c'est une punition extraordinaire. Charles, vous êtes à Kananga, bonjour.
Bonjour, monsieur Daniel.
On vous écoute.
Ok. Bon, je voudrais poser aussi une question à l'invité, parce qu'il dit que ce n'est pas bien de punir l'enfant avec des chicottes. Mais moi, quand je lis la Bible, malheureusement, je n'ai pas retenu le verset, mais la Bible dit en proverbe que tout parent qui ne punit pas son fils avec les chicottes, les hait. Donc, quand vous ne voulez pas punir votre enfant avec les chicottes, vous ne l'aimez pas. Alors, moi aussi, j'ai observé ça. Dans ma vie, j'étais un enfant qui circulait beaucoup, qui aimait beaucoup les fautes. Mais mon père ne voulait pas ça. Alors, il tapait beaucoup sur moi avec les chicottes, même parfois avec des coups de poing. Mais j'ai observé que ce que mon père faisait là, c'était juste. Parce que ça m'a aidé jusqu'à ce que je suis devenu aussi vieux. Mon père n'a jamais dépensé de l'argent pour moi, soi-disant qu'on m'a arrêté ou je fais ceci, non. Charles, mais les amis avec
Charles,
qui j'ai grandi, les autres, oui.
Charles, tu vois que tu n'es pas devenu un grand footballeur à cause de ton père, hein?
Bon, pas seulement être footballeur, mais une chose là, c'est déambuler, être têtu, turbulent. Les amis avec qui je me promenais, les autres sont même déjà morts à cause de cela.
D'accord,
moi je suis là. Et c'est la même discipline que je suis en train d'administrer à mes enfants. Je vois que jusqu'à présent, j'ai des enfants qui ont plus de 30 ans, mais qui ne me font pas dépenser de l'argent ou qui ne sont pas arrêtés à cause de cela.
D'accord, merci Paul Mboula. On va aller rapidement parce qu'il y a plusieurs questions des auditeurs. Nous avons revenons d'abord à Van qui avait posé la question de savoir est-ce que le fait d'enfermer un enfant pendant la récréation, on l'enferme dans la salle des classes, il va pas aller jouer. C'est une bonne punition ou pas?
Bon, c'est une privation de liberté.
Allez-y. Mmh. C'est une privation
de liberté. C'est une privation de liberté.
Oui.
Je reviens à mes questions essentielles. Mmh. Est-ce que on a effectivement de réalisé que cet enfant avait mal agi? Oui. Mmh. La deuxième chose, est-ce que c'est juste de priver de la liberté à un enfant? La justice qui va consister à ce que l'enfant réalise que c'est pas sa faute qu'il a manqué de sortir, d'aller s'amuser avec les autres. Mmh. Il faudra que cet enfant ait ces niveaux-là. Hein? Il a parlé d'un enfant, mais l'âge, il n'a pas, la classe, il n'a pas déterminé. Mais si c'est avec justice, si l'enseignant traite tous les enfants de la même manière,
oui,
quand ils ont dérangé, et si dans le groupe qui avait dérangé, l'enfant n'est pas le seul qu'on a puni, l'enfant réalise que tous ses amis avec qui ils ont dérangé et sont punis de la même manière, allez, là on a gagné. Parce que l'enfant lui-même deviendra juste, il va réaliser que plus tard, quand il a fait du mal, hein, l'enseignant est dans toute équité en train de réagir de la même manière.
Alors,
est-ce que pour l'intérêt de l'enfant,
d'accord,
pendant qu'il est resté dans la salle, qu'est-ce qu'il fait? Parce que j'ai vu des gens enfermer également leurs enfants dans les chambres à coucher. De la même manière, mais nous avons vu quoi? Que l'enfant qu'on a enfermé là, s'il ne fait pas autre chose qui l'élève, qui le rend meilleur, il va détruire. Des enfants ont brûlé les maisons parfois quand on les a enfermés dans les chambres parce qu'ils ont trouvé une bougie, ils ont trouvé des allumettes.
Ils ont commencé à manipuler.
Oui. Et ils ont brûlé la maison. L'enfant qui est resté dans la classe, si c'est pour chipper également
dans les cartables des amis,
on ne l'a pas aidé à devenir meilleur. Donc l'enfant, si on le retient, il faut l'occuper et il faut veiller à ce qu'il fasse ce qu'on lui a demandé pour qu'il réalise que j'ai manqué de jouer, mais je suis occupé à faire quelque chose qui concerne parfois un travail, parfois un autre.
Alors Guédon de Colosier nous dit, un papa a dit à son enfant de ne pas aller jouer au foot, mais il l'a fait et le papa l'a surpris. Alors on lui a privé à manger, il n'a pas mangé ces jours-là. Et l'enfant, comme il avait tellement faim, il est allé voler et son papa l'a pris et il a encore tabassé.
Vous voyez donc, la première privation n'était pas bien négociée. Pourquoi est-ce que je ne dois pas aller jouer au foot? quand les autres peuvent jouer au foot? Est-ce que tous les footballeurs sont des délinquants? Ça, c'est la question que, les multiples questions que l'enfant va se poser autour de la privation qu'on lui a faite. Donc, si on choisit une punition, on peut généraliser. Si on choisit une punition et qu'on réalise que l'enfant n'a pas encore compris les bienfaits de la punition, ne donnez pas cette punition-là. Il faut montrer que la punition est liée au fait qu'il a posé
tel acte.
Et en même temps, que les conséquences de ce qu'il a posé sont tellement négatives, sont négatives, et ce qu'on lui propose comme nouvelle conduite l'améliore, l'aide à devenir meilleur. Vous voyez, on part...
Alors, pour le cas de ses papas-là, qu'est-ce qu'il aurait dû faire?
On part de la privation d'aller jouer au ballon. Pourquoi? Je suis intelligent, je travaille, je fais mon devoir. Papa, j'ai terminé. Est-ce que je ne peux pas aller jouer au ballon avec tes amis? Si oui, va jouer, mais je ne veux pas attendre des histoires là-bas. Ok, l'enfant s'est dit, on m'a accordé la chance d'aller jouer,
oui.
Je vais rentrer et je vais me comporter comme veut papa. Je pense que entraîner de cette manière-là, l'enfant va jouer, parce que le jeu socialise l'enfant, c'est indispensable, c'est nécessaire pour la vie, l'épanouissement de l'enfant. Lui priver des jeux, ce n'est pas bon.
Donc, d'accord. Papa devait commencer par là. Alors, Jean Debouni, on va aller rapidement pour terminer. Il dit, il est arrivé en retard. L'enseignant était déjà dans la salle de classe. Alors, comme punition, vous allez creuser les trous, creuser la toilette, les fosses septiques de 10 mètres pour l'école.
Heureusement que les parents ont bien réagi. Ils n'ont pas creusé le trou et finalement, ils continuent ils ont étudié
les élèves,
dans une.
Ouais.
Oui, les élèves.
N'ont
pas creusé. Les parents les ont récupérés pour aller les inscrire ailleurs. Et c'est bien qu'ils. Soit devenu.
C'était pas une bonne punition.
Ce n'était pas une bonne punition.
Ouais. Et Charles dit
ce n'était pas adapté à l'âge de l'enfant.
D'accord. Charles dit, la Bible dit qu'il faut la chicotte. L'enfant fonctionne avec la chicotte. Et son papa l'avait chicoté aujourd'hui et il est devenu ce qu'il est.
Je n'aime pas trop discuter sur cette question de la Bible parce que je ne suis pas expert en cette question.
Oui.
Mais je pense que le mot fouet ici, à mon entendement, c'est toute punition qu'on doit infliger à un enfant quand il n'a pas. Quand il sort de la ligne. Donc,
d'accord.
Un bon parent, c'est celui qui veille au comportement des enfants, mais en même temps qui veille à ce qu'ils ne sortent pas de la ligne. Quand ils sont sortis de la ligne, il faut trouver les moyens de les remettre pour qu'ils soient meilleurs aujourd'hui et demain.
Paul Mboula, on retient qu'il n'y a pas une punition standard, mais la punition doit être adaptée et bien réfléchie pour obtenir le résultat, donc corriger l'enfant afin qu'il devienne meilleur.
Bien sûr, je dis parce que parfois quand vous punissez, vous croyez punir, c'est vous-même que vous punissez.
Voilà, vous vous finissez vous-même.
Oui.
Merci Paul Mboula, éducateur à la vie et psychologue. Merci et à la prochaine.
Merci.